て。J'ai choisi de ne faire que de la peinture, car le mélange des genres ne me satisfait pas. Je ne ressens pas le besoin de suivre la mode. À tout mêler, on perd le goût des choses. Je préfère poursuivre un seul objectif, être constant et aller jusqu'au bout de mon engagement. Je ne veux pas changer, mais seulement évoluer. Yann Paiming est notre invité à l'occasion de deux expositions, un enterrement à Shanghai au musée d'Orsay et Yann Paiming courbé au Petit Palais. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec David Bowie.
We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Pouvez-vous nous décrire, Yann Paiming, l'endroit où vous habitiez quand vous étiez tout petit à Shanghai chez vos parents?
je suis né dans un temple bouddhisme, mais qui s'affectait. Voilà, donc ça suis né là-bas. Donc c'est une sorte de... C'est un quartier assez populaire, oui, parce qu'il n'est pas très loin de la gare de Shanghai à l'époque, il s'appelle Quai du Nord. Voilà, donc ce sont des nouveaux immigrations qui sont arrivés de différents de la province. Ils sont tous installés autour de la gare. Voilà, ça, je suis né dans cet endroit-là. Une sorte de petite maison, toute petite maison. Il a c'est pas très grand. Chacun, il a des maisons. Il a des pièces, je sais pas. Chez moi, il fait 11 mètres carrés. Non, il fait 18 mètres carrés. On est 6, quoi.
Votre mère était croyante, bouddhiste.
Oui, parce qu'elle était fécondée pas mal avec de ses copines. Voilà, bouddhisme, tout ça. Au début, elle n'est pas pratiquante, mais elle est devenue pratiquante quand les jours que je quittais Shanghai.
Vos parents étaient ouvriers.
Oui, tous les deux, ouais. Tous les deux, ils sont vraiment. Parce que tous les deux, ils viennent de différentes de provinces. Un qui est du sud de Shanghai, et l'autre qui vient du nord.
Le lycée, manifestement, avant le lycée, il y a eu l'école primaire, puis l'école secondaire, puis le lycée, et manifestement, vous étiez déjà très doué, très jeune, Yan Peiming.
Oui, parce que j'étais intéressé que toujours à dessiner.
Depuis tout petit.
Ouais. Depuis tout petit, voilà, que ça petit à petit, voilà, que je pense que c'est à partir du lycée, je devenais un peu plus professionnel. Ouais, parce que j'étais délégué en art plastique dans ma classe. Voilà, c'est pas grand chose, mais que c'est moi qui ramassais les feuilles, distribuais les feuilles, tout ça.
Alors, vous avez fait de la peinture au lycée et vous avez été distingué par vos professeurs. C'est comme ça que votre histoire a commencé.
C'est moi qui l'ai provoqué.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que c'est moi qui ai proposé à l'époque le professeur à plastique. Je lui ai dit, voilà, il faut créer un atelier. Voilà, on va acheter le plate. Voilà, pour réunir quelques élèves qui sont intéressés. Pour trouver un lieu. Parce que, toutes les familles, tous les gamins, que la maison était vraiment trop petite. Voilà, on peut rien faire. Voilà, donc il nous a trouvé que on lui indiquait que quelques classes étaient vides. Voilà, qu'il nous convainc à l'époque au théâtre. Voilà, qu'on a un petit atelier, mais pour l'échange, on lui propose, voilà, que si toute la propagande de lycée, on peut l'assumer par l'atelier.
Donc, vous avez d'abord été peintre de propagande pour pouvoir devenir artiste au sens plein du terme.
Oui, parce que pour avoir un atelier, il faut avoir un échange. Voilà, que c'est pas moi que fait que de propagande, parce qu'on fait l'assumer par l'atelier. Il y a les gens qui dessinent, les gens qui peignent, il y a les gens qui peuvent faire le slogan. Voilà, qu'il y a une comité. Voilà, on crée un truc pour avoir, en plus que pour faire du propagande, on a du matériau. La gouache, les feuilles, tout ça. Voilà, pour que le propagande soit impeccable, on a besoin de l'entraîner.
Donc vous étiez prêt à tout pour pouvoir assumer votre désir de peinture. D'ailleurs, vous avez un petit côté brigand que vous conservez encore aujourd'hui et vous avez peint beaucoup de visages de brigands.
Oui, parce que à l'époque, que c'est pendant la révolution culturelle, j'étais très jeune. Voilà, je sais que pour travailler, il faut un lieu. Voilà, que quand la maison, on peut pas assumer qu'un lieu. Voilà, en ce moment-là, soit on travaillait dans la rue. Un soir, quand on travaillait dans un jardin, donc salle d'attente à la gare, donc ça, on peut faire le portrait parce que tous les Chinois qui prennent le train, ils peuvent attendre, pendant 2 heures ou 3 heures, que ça, on peut rester en plus.
Et on vous embêtait pas à ce moment-là en Chine pour pouvoir montrer ce que vous faisiez, vos tableaux dans
non,
la rue?
Oh non, c'est vraiment des choses les plus classiques. Voilà, on fait le paysage, voilà, on fait la nature morte, on fait quelques portraits de le paysan qui prend le train. Voilà, donc ça fait mal à personne.
Mais vous avez été un peintre de propagande très jeune avant d'arriver en Occident.
Oui,
vous avez peint le président, le seul.
Oui, oui, on fait l'ouvrier, président, voilà, que c'est le peinture de propagande. Je l'ai assumé avec tous les gens de l'atelier. C'est pour ça que c'est pour avoir un échange, donc avoir qu'un atelier. Voilà, l'atelier, c'est pas très grand, hein, donc voilà. Donc on peut inviter des modèles et des poses. S'il n'y a pas le modèle, on peut faire la plate. Quand il n'y a pas la plate, on peut faire la nature morte. C'est vraiment un lieu, comment dire, refuge pour que à mon âge, à l'époque, voilà, on peut travailler. Parce qu'à l'époque, tous les cours, soit le matin, soit de l'après-midi. C'est pas le cours continu le matin jusqu'à la fin après-midi, parce qu'il y a beaucoup plus de gamins à l'époque, qu'il n'y a pas assez de classe. Comme ça, voilà, qu'on fait 4 heures d'études, soit le matin, soit l'après-midi. On est toujours un peu libre. Comme ça.
Pourquoi avez-vous décidé, Yan Peiming, alors que vous arriviez à devenir peintre à Shanghai, de quitter votre propre pays pour arriver en Occident, et d'ailleurs, vous avez choisi la France. Pourquoi ?
Et parce que j'étais fait de propagande amateur. Voilà, que voilà.
Ça veut dire quoi, propagande amateur ?
Je ne suis pas encore un grand professionnel. Je suis encore très jeune, autour de 15 ans, 16 ans. Que voilà. Voilà, c'est pas comme de grands peintres. Voilà, il fait de gros trucs, tout ça. Mais que je suis assez modeste. Dans ma tête, c'est toujours j'ai envie de faire une école. Une école d'art. Voilà, donc j'ai une opportunité. J'ai un oncle, c'est le frère de ma mère. Il est installé à Rue Beaubourg. À l'époque, je finis l'étude, je l'écrivais. Je dis, voilà, est-ce que je peux venir te faire l'étude en France, tout ça. Voilà. À l'époque, je rêvais de faire une école de beaux-arts à Paris, par exemple. Voilà, parce que la France, pour moi, c'est le seul pays, il y a des preuves. Il y a plein d'artistes. Donc, ils sont immigrés en France. Voilà, donc, c'est au début du siècle dernier. Voilà, c'est vraiment un lieu incontournable.
Alors, vous allez faire vos études à Dijon. Cela va vous réussir. Vous allez être...
Je suis d'abord fait le concours du Beaux-Arts de Paris. Refusé. 8 sur 20.
C'est pas brillant, 8 sur 20.
Ouais, mais à l'époque...
Vous n'avez pas été découragé.
Mais non, parce que à l'époque je parle pas très bien français, quoi. Ah, donc que je suis incapable de le rouler et le jury. Voilà, donc pour rouler le jury, il faut pas
rouler le jury. Ça c'est aussi votre côté brigand.
Voilà, exactement.
Essayez de rouler les autres. Vous faites semblant de vouloir rouler les autres, mais en fait, vous êtes un peintre très sérieux. Mais
ouais.
Très facétieux aussi.
Oui, parce que j'ai un engagement total que vis-à-vis de ma vie, voilà, et mon travail. Que je sais que la peinture, c'est une sorte de ma vie. Voilà. Donc, je vis avec.
Mais il suffit de voir les deux expositions qui viennent de commencer à Paris pour se rendre compte que vous tenez tête haute face et avec Courbet. Donc, c'est déjà pas mal, hein, de tenir, la rampe et d'être le compagnon d'un grand peintre qui a disparu depuis longtemps et de vivre avec lui et de faire en sorte que nous qui regardons votre travail, nous pouvons embrasser à la fois la mise en perspective, la profondeur, la croyance en la peinture qu'avait Gustave Courbet avec votre propre œuvre aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on écoute une archive, Yan Peiming, une archive qui va vous faire repartir en arrière, une archive qui va, je pense, vous émouvoir ou vous faire sourire. Je vous propose d'écouter un événement qui a eu lieu le 15 septembre 1976. Nous l'écoutons, commenté par Léon Zitrone.
Tiananmen, la grande place de Pékin. C'est ici, dans le bâtiment du Congrès, qu'est exposé le corps, la dépouille mortelle de Mao Tse-tung, et les gens viennent par milliers, par dizaines de milliers, s'incliner devant sa dépouille. De partout, les dignitaires sont venus s'incliner devant le corps du président disparu et des envoyés de toutes les provinces sont là. Chacun porte à la place du cœur un chrysanthème, signe de deuil, un signe de deuil qui s'additionne au brassard de deuil que chacun porte à son bras gauche. par dizaines de milliers des Chinois et des Chinoises représentant toutes les couches de la population se sont alignés, vous le voyez, en longue file sur cette place Tiananmen. Elle est isolée du reste de la ville par les forces de la milice en attendant de pouvoir pénétrer dans les bâtiments du Congrès national populaire où ils entrent maintenant. Ces cérémonies qui ont commencé samedi dernier se poursuivront jusqu'au samedi 18 septembre, jour où sera prononcé l'éloge funèbre du président Mao devant plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées sur la place que nous avons vue il y a un instant au début du reportage. Aucun membre de la communauté étrangère de Pékin, diplomate ou journaliste, ne sera autorisé à assister à cette cérémonie. Et voici la dépouille.
Nous venons d'entendre le reportage de Léon Zitrone au moment des funérailles de Mao Tse-Tung. Mao, il ne vous a jamais quitté, et ce, depuis les débuts du moment où vous êtes rentré à l'école. Yan Peiming, ça a été vos premiers apprentissages. On vous a demandé d'apprendre « Vive le président Mao », etc. Et ensuite, vous avez fait un long compagnonnage avec Mao Tse-Tung. Et quand vous êtes arrivé en France après vos études, une des premières œuvres monumentales qu'on a pu découvrir de vous et qui vous a permis de vous faire reconnaître un peu partout dans les grands musées d'Europe, ça a été des grands portraits de Mao Tse-Tung. Où étiez-vous en 76 lors de la mort de Mao Tse-Tung?
Que ça me rappelle vraiment très bien. J'étais à Shanghai à l'époque, j'étais dans un jardin avec des copains dans un bateau de paysans, on est en train de faire le portrait. Quand tout à coup, il y a des haut-parleurs qui parlent. Le voix sombre, il nous dit, annonce à quelle heure est la nouvelle de Pékin. Et la voix qui est tellement grave, voilà, on est tous entrés à la maison, voilà, tous écoutés la radio. C'est le moment qui annonce de la mort de Mao Tse-Tung. Évidemment qu'à l'époque, toute l'école, toute l'usine, tout le bâtiment, voilà, immédiatement, drapeau en berne, voilà, que tout l'endroit on fait le portrait de mort pour essayer, que tous les gamins, toutes les familles qui fait le fleur en papier. Voilà, c'est, voilà, il est entouré de noir et le fleur blanc en papier. Voilà, que, et moi je participe aussi, donc, dans mon lycée. J'étais quand même encore un étudiant au lycée.
Donc vous avez été élevé tout le temps, tout le long de votre enfance et de votre adolescence dans le culte de Mao. Quand vous êtes arrivé en Occident, vous avez peint Mao, et notamment, vous avez peint plusieurs portraits de Mao assez gigantesques. On va parler de votre travail monumental. Vous êtes un monumentaliste qui aimait les très grands formats et qui vous attaquait à la peinture comme un boxeur peut s'attaquer à un adversaire. Mais ce qu'il y a de très passionnant, c'est que ces portraits de Mao que vous avez faits, bien plus tard, après la mort de Mao Tse-Tung, vous avez distingué la mort des funérailles. Et vous avez donné plusieurs états du visage et des expressions de Mao Tse-Tung. Vous avez fait des séries Mao Tse-Tung, un peu comme Andy Warhol a pu faire des séries Marilyn Monroe. Pourquoi ?
Et moi, ça me rappelle très bien que la première fois que je suis allé à Pékin, j'avais 18 ans. J'étais à Paris, j'étais dans un hôtel. Ce n'est pas un vrai hôtel, c'est un trottoir à Place Tiananmen. Dans la chambre, dans la pièce, on a le lit empilé, environ 10 personnes. Un jour, le couloir et le téléphone sonnent, personne ne répond, je réponds. Le type qui m'a dit, est-ce que je peux vous laisser un message? J'ai le billet pour visiter le monument de Mao Tse-Tung à Place Tiananmen. Est-ce que vous pouvez laisser un message à quel nom? Tout ça. Et moi, je lui dis, est-ce que je peux avoir un aussi de billet? Si vous voulez, je peux vous le prendre. Je lui donne une enveloppe à les gens qui habitent. Oh, il est logé en même temps que moi. Il m'a dit, OK. Ça, je suis allé tout seul pour aller prendre les billets, il m'a donné un. Donc tout seul, ça je suis allé voir des dépouilles de Mao Tse-Tung. Je n'ai jamais été à Pékin. Voilà, donc je l'ai vu un très jeune âge, quoi. Voilà, donc à partir de ça, évidemment, que j'ai déjà fait le portrait de moi en Chine, tout ça, c'est son peinture a toujours été éphémère. Voilà, parce que je travaille sur le mur, après on l'effaçait, que sur le panneau, que voilà, tout ça. Quand je suis arrivé en France, évidemment, personne ne me connaît. Évidemment, comme les gens, comme Bernard Macadet, comme les gens, ils sont tous en chien 68 arts. Je dis, on fait le portrait de mort, c'est pas mal. Je fais une propagande à l'envers. C'est mort, il veut me faire propagande à un jeune artiste. Voilà, il est inconnu ici. Tout le monde, il connaît mort. Après, les gens, ils vont savoir qui peint ce portrait de mort. Évidemment, la différence avec Andy Warhol était énorme. Un qui travaille sur la consommation, sur la popularisation. Et moi, je fais une vraie peinture. Voilà, donc je fais plein de portraits de mort pour essayer de lancer ton travail. Par exemple, en 91, je fais une exposition à Paris. C'est ma première exposition personnelle à Paris, chez Anne de Villepoix. Voilà, je commence un titre à partir de son histoire, mon histoire qui commence. À travers de lui, mon histoire personnelle, il commence. Voilà, je fais une série de portraits de mort que, évidemment, que les gens, ils sont adorés, quoi. Voilà, adorés. Les gens me disent, ouais, c'est quoi ça, tout ça, voilà, c'est la peinture. Voilà, donc c'est immédiatement, je fais remarquer.
Moi et Mao.
Oui, parce
Mao
que,
et moi.
Oui, c'est que comment personne y connaît Yinpei Ming. Voilà, arrivé en France, qui me connaît personne. Voilà, tout le monde y connaît Mao. Voilà, c'est une sorte d'outil pour faire marquer à l'époque. Donc, essayer de le négocier à une manière que tu dois entrer. Voilà, que vous faire remarquer. Voilà.
Alors avec vous, Yinpei Ming, on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas si ces grands tableaux de Mao qui vous ont fait découvrir à travers le monde entier étaient des sortes de brûlots politiques. Je ne le crois pas. C'était des actes de peinture. Même si d'autres séries de tableaux vont montrer que vous êtes un citoyen du monde sur d'autres sujets, notamment sur le racisme à travers le monde. Mais vous avez une curieuse façon de prendre les mythes populaires, un peu d'ailleurs comme Andy Warhol que vous venez de citer, pour pouvoir les détourner. Mais en fait, vous ne voulez pas les détourner parce que vous croyez sincèrement au pouvoir de la peinture et vous croyez à l'amour immodéré que vous portez à certains acteurs. Et je veux parler d'un acteur vénéré dans le monde entier que vous avez portraituré aussi. On écoute un extrait de La Fureur du Dragon avec Bruce Lee.
Ouais, ça c'est un vrai boxeur. Quatrième kata. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Dégagez le doigt du sou. C'est ce qu'on appelle se faire mettre en boîte.
Qu'aimez-vous en Bruce Lee, Yinpei Ming?
C'est vraiment une étrange de rencontre avec Bruce Lee. Je n'ai jamais vu un film de Bruce Lee en Chine. Jamais vu. Quand je suis arrivé à Dijon, je le rencontre un Chinois, il vient de Taïwan. Il est plus âgé que moi. On était ensemble en classe ensemble pour apprendre le français. Il me parle de Bruce Lee. À l'époque qu'à Dijon, il a plus de cinéma, il fait le Bruce Lee. Voilà. Quand on a le temps libre, on va le voir. Quand je vois ça, je dis, merde. En Chine, on n'a jamais vu. Voilà. Voilà. C'est la première fois que je l'ai vu, ce film-là. Évidemment, je vois toutes les séries, hein. Ouais, évidemment, au cinéma, en France, il n'y a pas trop de monde. Voilà. C'est vraiment, ouais, il y a 5, 6, voilà. Personne, il voit le film, quoi. Donc, pour moi, c'est une véritable découverte parce que c'est une sorte de la Robert Dubois, quoi. Voilà, un truc. Voilà, il fait lutte pour avoir une autre identité. Voilà, tout ça. Voilà, je suis fasciné. Quand le moment, après le portrait de Maurg, après le portrait de mon père, je me disais, troisième personnage, qui je veux peindre? Voilà, je commence à faire l'autoportrait et en même temps, je fais le Bruce Lee. Voilà, c'est que je lance une grande série de Bruce Lee. Mais je fais le Bruce Lee assez grande. Parce que, pourquoi assez grande? Parce que Bruce Lee, il fait que le cinéma. Il fait jamais le téléfilm. Voilà, je préfère avoir un écran assez grand, assez monument. Quand je vois le film, quoi, toutes les scènes, je suis toujours assez loin. Que ça, je vois le bien de l'ensemble. La Bruce Lee, c'est assez important que dans mon travail.
Alors, il y a aussi peut-être autre chose concernant votre pratique de la peinture dans l'admiration que vous portez à Bruce Lee. C'est que pour vous, la peinture est un acte physique. Un acte qui vous engage corporellement, psychiquement bien sûr, mais vous considérez que la toile vierge est comme une sorte de champ de bataille et que la peinture c'est comme la boxe.
Oui, parce que quand on est devant une grande toile vierge, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut avoir un tout petit pinceau, rien que rempli, c'est impossible de le remplir. Voilà, quand on, avec une pinceau qui est proportionnelle au format, je peux remplir beaucoup plus vite parce que j'ai envie d'exprimer pratiquement immédiat. Voilà, c'est pour ça que je fais une peinture comme une bataille, comment dire, très vite, pour remplir. Après, je construis. Voilà, je détruis, je construis en même temps.
Vous allez construire une œuvre monumentale, là aussi très vite repérée et reconnue dans le monde entier. Vous allez intituler toute cette série de cette première partie de votre œuvre artistique Tête. Et pourquoi pas visage?
Et le visage, il a toujours une identification. Voilà, le visage d'une personne, et la tête, ça ressemble à personne. Voilà, à l'époque, je fais pas mal de la tête. C'est une sorte de l'antiportrait. Voilà, ça, je suis assez doué, mais j'ai pas envie de, j'ai envie d'un peu, comment dire, à l'époque, j'ai envie de faire une sorte de la, ne pas dans le réalisme, voilà, académique. Voilà, je fais de la tête pour essayer de sortir tout ce que j'ai acquis autrefois. Voilà, à l'époque, c'est pour ça que je fais pas mal de portraits de Mao. C'est la seule personne qui est identifiable, c'est le portrait de Mao, et les autres, ils s'appellent tête.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, Yan Peiming, parce que vous avez, à certains moments dans votre parcours artistique, dévié de cette règle que vous étiez assignée à vous-même, et notamment quand on vous a proposé d'aller travailler dans la prison de femmes de Rennes. Mmh. Et là, vos têtes, reconnaissables entre toutes, extrêmement grandes, qui nous regardent frontalement, elles sont changées. C'est-à-dire que les prisonnières de Rennes avec qui vous avez travaillé, qui ont posé pour vous, eh bien, elles nous regardent ou elles sont de profil. Et elles ont un visage beaucoup plus humain que les têtes de Mao Tse-tung ou de Bruce Lee. Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé dans cette expérience?
C'est une expérience assez incroyable. Et quand je entre dans la femme, dans la prison de femmes de Rennes, évidemment que je fais pas mal de discussions avec eux, que je fais une animation de atelier. Voilà, on fait le repas ensemble, tout ça. Il y a une africaine, elle s'appelle Agnès. Voilà, elle est très belle, magnifique. Voilà, il y a une fille, une femme, qui s'appelle Florence, tout ça. Voilà, j'ai pas mal de dialogué. Voilà, on fait le repas, on partage ensemble, tout ça. Je pense que c'est pas mal de faire le portrait de profil. À la fois que au début, j'ai envie de face à face. Mais en même temps, la beauté de femme profil, je trouve, c'est extraordinaire. Voilà, je fais 5 portraits. La femme prisonnière, profil. Après, c'est le 5 portraits, je l'ai exposé au musée de Rennes, musée de Beaux-Arts de Rennes. Je demandais au directeur de prison. Je dis, est-ce que je peux l'amener à aller voir l'exposition? Ils m'ont autorisé. Je l'amène 5 femmes pour aller voir l'exposition. Après, avant d'entrer en prison, on boit un cours dans la terrasse, tout ça. Voilà. Et les femmes, ils sont fumées, on parlait, tout ça, tout. Ils sont vraiment très, très heureuses. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas boire un verre ailleurs.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Yan Peiming. Il a choisi la bande originale de In the Mood for Love. Nous venons d'entendre Shigeru Umebayashi, c'est la bande originale du film In the Mood for Love. Merci pour ce choix, Yann Paiming. Cette très belle musique un peu mélancolique résonne un peu comme votre œuvre, où à la fois il y a des moments de jubilation intense dans certains de vos tableaux, et puis à d'autres moments il y a beaucoup, beaucoup de présence de la mort. Et là, je fais référence explicitement aux deux expositions qu'on peut voir simultanément à Paris, un enterrement à Shanghai au musée d'Orsay, évidemment qui est une déclinaison de l'enterrement de Gustave Courbet, le fameux tableau, immense tableau de l'enterrement à Ornans de Gustave Courbet. Et puis il y a ce corps à corps aussi au Petit Palais de vous avec Gustave Courbet. Et dans ce corps à corps, vous avez mis explicitement des tableaux de votre mère qui a disparu, des tableaux aussi de votre père. Et ces tableaux-là sont d'une très grande profondeur et nous font peut-être penser que la peinture, l'acte même de peindre, peut tout d'un coup établir un pont avec l'au-delà.
Oui, parce que évidemment que je peins, j'ai envie d'exprimer. Par exemple, au musée d'Orsay, c'est une exposition qui est un lieu exceptionnel. Je fais un projet exceptionnel. Seule référence avec Gustave Courbet, c'est le format. Une toile, c'est le format. C'est que je crée un triptyque. Par exemple, la première peinture à gauche, c'est le Montagne Céleste. C'est le dieu, c'est le lieu de la naissance de ma mère. Aussi, c'est le lieu que ma mère, elle a envie d'y aller. C'est une sorte de paradis céleste. Voilà. Et le deuxième, au milieu, c'est le portrait de ma mère. Le titre, c'est ma mère. Je veux absolument que les gens y sachent, c'est la mère de l'artiste. C'est pour ça que je l'ai nommé ma mère. Le troisième panneau, c'est l'adieu. C'est ce pièce-là qui est la seule référence avec Courbet, c'est le format. Parce que Courbet, il raconte son histoire, et moi je raconte le mien. Voilà, que je pense que Courbet est en bas et moi je suis au premier étage. Voilà, c'est vraiment une sorte de là. Je peins avec beaucoup d'émotions, beaucoup de la tristesse, que ma mère est même très profondément. Voilà, donc je suis, quand j'étais petit, je n'ai jamais été embêté ma mère. J'ai toujours raconté à ma mère que de bonheur. Ouais, je réussis en concours d'entrée aux Beaux-Arts, je réussis de mon diplôme, tout ça. Voilà, je veux toujours raconter des choses vraiment positives. Voilà, que quand j'ai des malheurs, que je ne dis rien, j'ai encaissé au fond de moi.
Votre travail sur Gustave Courbet a commencé par un corps à corps assez secret, puisque vous avez eu le grand privilège d'aller dans l'atelier de Gustave Courbet. Or vous, et vous l'avez dit depuis le début de cette émission, Yann Paiming, vous êtes parti de votre propre pays, la Chine, pour aller en France, pour avoir un lieu à vous. Même si en Chine, vous aviez trouvé un lieu collectif avec vos camarades lycéens. Je connais votre atelier, j'ai eu la chance d'aller dans un de vos ateliers, parce que je crois que vous en avez plusieurs. Que représente pour vous l'atelier aujourd'hui ?
J'ai toujours rêvé. Quand j'étais tout petit, habité dans une petite maison, j'ai toujours rêvé que trouver un lieu de stockage, un lieu que je peux être calme, je peux faire la peinture. Depuis très jeune âge. Évidemment, quand je suis arrivé en France, à l'époque, je n'ai pas de moyens. Les Beaux-Arts, pour moi, c'est 5 ans aux Beaux-Arts que je suis passé. C'est le bonheur pour moi, la totale. J'ai trouvé une famille. J'ai des professeurs formidables. J'ai le bonheur, j'ai des camarades. À l'époque, quand j'ai entré aux Beaux-Arts, évidemment, je parle très mal français. Ouais, il y a des camarades qui sont patients de me expliquer. Tous les midis, je mange au Resto U.
D'ailleurs, vous avez fait des œuvres pour récompenser celles et ceux qui vous servaient au Resto U.
Voilà, que ça, c'est ce projet-là, c'est le nouveau commanditaire, fait par Xavier Dourou. C'est un très bon copain à moi. Il est mort il y a 2 ans. À l'époque, il m'a demandé, voilà, est-ce que tu as une idée, une nouvelle commanditaire, Je dis que pour moi, le Resto U, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que tous les étudiants qui restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, après, les nouveaux, ils arrivent. Voilà. Et le personnel, sauf ils sont en retraite, ils sont toujours là. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un échange vraiment incroyable. Voilà. Tous les gens, ils mangent, ils te vendent, il y a une série de petits portraits.
Vive le Resto U.
Voilà, mais aujourd'hui, ils ont changé. Voilà, parce que le Resto U était déménagé. Mais c'est un beau Resto U, incroyable. C'est un Resto U qui est traditionnel, ça veut dire on achète le ticket, après on fait la queue, après les gens qui nous ont placés. Voilà, que tout le viande était une grande assiette, voilà, par exemple une table qui est 8 personnes, il a amené 8 morceaux de viande, il a toujours une fille, il mangeait pas la viande, que ça qu'on partage. Voilà, donc c'est pour moi, là, je mangeais pendant des années.
Et maintenant, vous habitez en tout cas dans la région parisienne, vous avez un atelier tellement grand que vous pouvez tout y faire. Des banquets à la chinoise, des peintures le soir quand les invités sont repartis, et même vous pouvez y dormir.
Mon atelier principal, ça c'est resté encore à Dijon. Voilà, à Paris, pour moi, c'est une sorte de pied à terre à Paris.
Voilà. Un pied à terre qui est quand même assez grand, hein. Ça fait combien de superficie votre atelier?
Pas mal. Oui, mais ça c'est un choix. Soit on va avoir 15 mètres carrés en face de le Gare de Lyon, soit avoir plus que 1000, 2000 mètres carrés à la banlieue. Voilà, ça c'est un choix à faire.
Eh ben, vous avez choisi la superficie, l'espace, la liberté.
Oui, parce que 15 mètres carrés, qu'est-ce que je préfère?
Bah surtout quand vos toiles font 25 mètres de haut et 40 mètres de large.
Ouais, mais que je préfère un atelier. J'ai toujours rêvé de l'atelier. Atelier, on peut tout faire. Voilà, que dans un petit truc en face de le Gare de Lyon, c'est pas évident. Simplement, on peut mettre un lit, quoi.
On vous dit monumentaliste, on peut dire aussi que vous êtes mémorialiste, car depuis des décennies, vous construisez une œuvre où les références à notre monde contemporain sont multiples. Vous vous intéressez beaucoup aux faits divers, vous faites quelquefois scandale en donnant un visage à des criminels que vous allez croquer. Mais vous mettez en scène aussi une histoire collective qui continue à nous émouvoir. Et là, je pense notamment à une date extrêmement précise. Écoutez.
Attentat contre le président Kennedy à Dallas. Le président a été transporté à l'hôpital. C'est alors qu'il traversait en automobile le centre de Dallas dans le Texas qu'on a tiré sur la voiture présidentielle. Madame Kennedy accompagnait son époux. C'est elle qui s'est précipitée la première vers le président. Un photographe de la suite présidentielle a déclaré que le président Kennedy saignait à la tête. Je vous l'ai dit, il a été transporté à l'hôpital. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dans la soirée et au cours de ce journal, bien sûr, des nouvelles en provenance de New York ou de Washington. D'ailleurs, nous attendons d'un instant à l'autre un appel de l'un de nos correspondants aux États-Unis, Jacques Salbert ou Michel-Pierre Texier. Je demande à la technique s'ils sont en ligne. Robert Cézé, vous êtes en ligne? Allô, New York?
Oui, allô.
Alors, nous vous écoutons.
On sait que le président Kennedy et le gouverneur John Connally, qui était avec lui, qui a été blessé comme le président, ne sont pas morts, mais qu'ils sont dans une condition que l'on qualifie de critique. Lorsque le président a été blessé dans sa voiture par une balle, dit-on, de revolver, il s'est immédiatement penché dans l'avant de la voiture, il est tombé, et Madame Kennedy l'a relevé. Et immédiatement, la voiture s'est arrêtée, bien entendu. Il y a eu évidemment une grande confusion tout autour de cette voiture. Et on s'est aperçu que non seulement le président Kennedy était blessé, mais qu'également John Connally, le gouverneur de l'État du Texas, et Lyndon Johnson. En ce moment, ces trois hauts personnages américains se trouvent à l'hôpital, un hôpital proche. Nous n'avons pas d'autres nouvelles concernant cet attentat. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que à l'heure actuelle, nous venons d'apprendre, il y a à peine une minute, que selon un rapport de la clinique où se trouve le président Kennedy, ni le président ni le gouverneur John Connally n'étaient morts, mais qu'ils se trouvaient dans une situation critique. On ne savait pas encore si on pourrait ou sauver l'un ou l'autre.
Nous venons d'entendre cet archive de l'INA du 22 novembre 1963 dans Interactualité. Et vous, Yann Peiming, vous avez immortalisé, si j'ose dire, grâce à votre talent de peintre, le corps, l'esprit, l'âme de John Fitzgerald Kennedy. Comment et pourquoi ça vous est venu? Parce que ce tableau est absolument bouleversant. Justement, on a l'impression qu'il est entre la vie et la mort.
Oui, parce que il est, c'est, je l'ai trouvé dans l'archive, sur l'internet, c'est une photo à la morgue. Quand je vois cette photo-là, je suis bouleversé. J'ai envie de traduire en peinture. C'est un assassinat politique. Et c'est le mystère total. On ne sait pas aujourd'hui qui est l'assassin. Voilà, jusqu'à présent. Voilà. Donc, on a trouvé du coupable, mais le coupable est mort. Voilà, aussi. Voilà. Donc, je fais son portrait aussi. Voilà. Donc, c'est une sorte de assassinat politique le plus mystérieux de notre temps.
Quelle serait votre définition de la peinture aujourd'hui, à l'automne 2019?
La peinture, c'est pas une caresse. La peinture, c'est un engagement, une vision du monde d'aujourd'hui.
Vision du monde, des tourments du monde contemporain ou l'immémorialité des paysages qui nous habitent? Car vous faites aussi des paysages.
Bien sûr. Par exemple, que je fais le paysage, donc, je le fais le 11 septembre. Pour moi, c'est un paysage. Au lieu de faire l'arbre, les fumées, au lieu de faire les oiseaux, je fais deux buzines en train de fumer. Il y a un avion qui est en train de... Il va heurter tous ces immeubles-là. Voilà, pour moi, c'est le nouveau paysage d'aujourd'hui. Voilà, c'est un engagement. C'est un geste politique pour moi. Voilà, c'est un attentat horrible.
C'est comme le massacre des innocents de Goya.
Évidemment. Évidemment.
Ça y fait référence d'ailleurs, ce tableau que vous avez peint sur le 11 septembre.
Oui, parce que le Goya, avant, il peint ses sons, pas écrire. C'est le récit des autres, il est traduit en peinture. Aujourd'hui, je peins avec des documentations réelles. C'est comment on peut image éphémère transformer en peinture. Par exemple, je sais pas, quand je fais le portrait d'Émile Louis, le journal qui parle.
Émile Louis, alors faut rappeler qui c'était. C'était cet horrible bonhomme qui a tué des tas de petites filles.
Ouais, petites filles handicapées. Quand je fais le portrait d'Émile Louis, tout le monde y fait deux scandales. Quand tous les journaux...
Oui, vous vous faites censurer dans les expositions.
Ouais, quand tous les journaux y parlent d'Émile Louis avec des photos, toutes les télévisions y parlent, personne y fait de le scandale. Quand les jours ont transformé cette idée à cette truc, il va passer un journal à l'autre, voilà. En peinture.
On est au cœur d'un sujet brûlant, c'est-à-dire, vous êtes un artiste, un grand artiste. L'acte de peindre est une responsabilité.
Oui, mais évidemment.
L'acte de montrer des images avec des gens anonymes qui ne prennent pas la responsabilité de diffuser en boucle mêmes images. Ouais. Évidemment, c'est pas la même chose. Donc, je vous demande aujourd'hui, Yann Peiming, qu'est-ce qu'une image? Et comment un tableau se distingue-t-il d'une image pour vous?
C'est une sorte de la... C'est la force de la peinture. Voilà, tout simplement. Voilà, quand une image qui va chasser un autre, quand transformée en peinture, immédiatement, on regarde autrement. Voilà, c'est la peinture. Il est lui-même, il était devenu, il a une force incroyable.
Voilà. On sent que depuis très longtemps, Yann Peiming, vous regardez les grands maîtres. On vient de parler de yoga. On sent que depuis longtemps, Yann Peiming, vous regardez les grands maîtres. On vient de parler de Goya, mais il y a aussi l'ombre de Rembrandt et de Velázquez sur votre œuvre.
J'ai toujours aimé...
Sans parler de Courbet,
ouais,
évidemment.
J'ai toujours aimé aller promener dans de très grands musées du monde, regarder la peinture ancienne. C'est quel plaisir, quelle nourriture. Quand je vois tous les artistes à l'époque qui fait un engagement pictural aussi sur le sujet, c'est une régale, c'est une promenade dans le temps.
Il faut parler de votre matière picturale. Vous l'avez dit tout à l'heure, la peinture est un acte de combat physique. Aussi, les couches de peinture sur vos grands formats sont extrêmement impressionnantes et vous avez quand même un registre du noir et du blanc, et plutôt du noir, et très peu de couleurs. Pourquoi?
C'est une sorte de l'engagement aussi.
Morale, éthique, esthétique?
Non, il faut que c'est... D'abord, c'est pas un engagement. C'est un engagement-là, c'est... La peinture, c'est pas uniquement en couleurs. Moi, je l'aime beaucoup, c'est la lumière. c'est la valeur et la lumière et le mystère de la peinture. En plus que tout ce que j'ai appris en peinture en Chine, il y a toutes les reproductions, tous les grands maîtres, ils sont toujours des photos en noir et blanc. Voilà, au début, je croyais que toutes les peintures étaient en noir et blanc. Voilà, quand je vois toute la réalité et la peinture au Louvre, en couleur, finalement, je préfère en noir et blanc.
Vous êtes arrivé en France avec 4 livres. Un livre d'art, d'histoire de l'art français, un livre d'histoire de l'art chinois, et aussi avec Stendhal, Le Rouge et le Noir. Pourquoi ?
Ce sont des livres qui sont traduits en Chine. Voilà, je les lisais que quand j'étais petit, que ça me plaît. Voilà, donc je les ramène en France. Parce que je sais, au début, je ne peux pas lire en français, que je peux lire en chinois encore.
Certains vous catégorisent comme un artiste chinois vivant en France depuis longtemps. D'autres vous caractérisent comme un Français ayant reçu toute la tradition culturelle de votre propre pays, la Chine. Et vous ?
Moi,
vous êtes où ?
Je suis un artiste français. Très fier de l'être. Je l'aime beaucoup, la France. C'est la France qui m'a donné une chance devenue Yen Pingming d'aujourd'hui. Je fais 5 ans de Beaux-Arts gratuitement. Ça me plaît. Voilà. Je veux enterrer en France. Voilà. Je l'aime ce pays.
Dernière question, Yen Pingming. On peut admirer votre travail en ce moment même au Musée d'Orsay et au Petit Palais. Ce corps à corps avec Gustave Courbet. Que peignez-vous en ce moment? Qu'allez-vous peindre ce soir quand vous rentrerez dans votre atelier?
Je veux ranger un peu d'atelier. Ça fait 1 an que je n'ai rien rangé. Voilà, que quand tout le peinture est fini, voilà, je l'amène au musée d'Orsay. Voilà, il faut que je mette un peu de vide. Voilà, donc je veux commencer à imaginer le prochain projet que pour l'année prochaine à Avignon. Palais du Pape chez Collection Lambert.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'attends par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et
je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Merci Yan Peiming et merci à toutes et à tous. En ce moment même, vous pouvez voir à Paris deux expositions, un enterrement à Shanghai, au musée d'Orsay, et ce jusqu'au 12 janvier, et Yan Peiming Courbet, au Petit Palais, jusqu'au 19 janvier. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet. Et merci à Lilian Alloum qui a réalisé comme chaque soir cette émission.